Bonjour Anne et bonjour à tous. Merci d'écouter France Culture. Il est midi, tout de suite les titres du journal de 12h30 présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Pas vraiment de sortie de crise en vue pour ce conflit sur la loi travail. Les organisations syndicales appellent à poursuivre, à amplifier les mobilisations. François Hollande affiche sa fermeté. Je tiendrai bon, dit-il, parce que je pense que c'est une bonne réforme, affirme le chef de l'État, qui était au G7 au Japon, suivi de ce conflit tout à l'heure avec Anne-Laure Chouin. Barack Obama, lui, est à Hiroshima et le chef de la Maison Blanche appelle ce matin à un monde sans armes nucléaires. Correspondance sur place avec Frédéric Charles. Aux États-Unis, le compte semble être bon maintenant pour Donald Trump. Il a revendiqué, en tout cas hier, avoir passé la barre des 1237 délégués en raison notamment de plusieurs ralliements. C'est Nadine Epstein qui nous en parlera. Et puis on évoquera ces deux nouveaux naufrages meurtriers de migrants au large de la Libye. Les survivants parlent d'une centaine de disparus bloqués dans la coque du bateau qui contenait 650 personnes. Hier, un autre naufrage avait eu lieu toujours au large des côtes libyennes, faisant 20 à 30 morts. L'invité de la séquence interview tout à l'heure, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. C'est à vous Caroline, la grande table.
Et la grande table qui met les petits plats dans les grands. La ministre de la Culture et de la Communication qui restera un petit bout de la deuxième partie où elle croisera notre invité, le prix Nobel de physique Serge Haroche. Et puis pour commencer, un artiste qui lui aussi aime voir les choses en grand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au micro. Merci. De la grande table. Depuis mercredi, on peut admirer votre nouveau travail, votre nouvelle installation à Paris, au musée du Louvre, plus exactement sur la pyramide. Qu'est-ce qu'on peut voir?
Qu'est-ce qu'on ne peut plus voir plutôt? Car c'est une installation pour faire disparaître la pyramide. Ça paraît un peu prétentieux comme ça, mais en fait, c'est une disparition éphémère, noir et blanc, et qui dépend du point de vue d'où l'on se place, puisque c'est finalement un endroit que j'ai trouvé en fonction par les gens. C'est là où les gens se prennent le plus en selfie, et c'est assez marrant quand on va se prendre en selfie devant la pyramide du Louvre. En fait, on lui tourne le dos. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour en fait tourner le dos à la pyramide du Louvre, prendre son téléphone, mettre les trois quarts de sa tête dans l'image et garder un petit bout de la pyramide. Je me suis dit, je vais enlever ce petit bout de la pyramide et voir ce que ça donne quand les gens se retrouvent seuls avec eux-mêmes.
Et donc concrètement, c'est un collage?
Voilà, c'est un
collage. En noir et blanc.
Exactement.
Qui représente le musée du Louvre.
Et oui, qui représente le pavillon de Sully qui est juste derrière. Et donc d'un seul point, comme le principe de l'anamorphose, qui est vieux comme le monde, tout disparaît.
Tout disparaît, ça veut dire quand même que à un autre endroit où on se place, tout réapparaît.
Différemment.
Quand on marche, quand on s'approche de la pyramide, sur le côté, on voit le vert, et puis on voit votre collage en noir et blanc qui est sur le dessus. Et effectivement, il faut aller marcher. C'est pas compliqué à trouver ce point, parce
non.
que tout le monde est là.
Oui, maintenant, il y a une petite queue qui
s'est
créée.
Donc il faut marcher jusqu'à ce point où tout le monde est là à regarder et effectivement à prendre des photographies. Est-ce que vous, qui travaillez toujours sur des lieux particuliers, vous vous êtes dit là, je pars d'un lieu ou je pars d'une situation particulière qui est cette situation des touristes qui se prennent avec leurs propres photos?
Déjà, il y a une chose, je ne m'étais jamais autorisé à penser même. Je ne m'étais pas autorisé à penser quelque chose au Louvre un jour. Une fois que j'ai reçu cette invitation, j'ai été là-bas et donc pour la première fois, je me suis dit, c'est dingue, je suis passé devant cette pyramide.
Et vous avez regardé la pyramide.
Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment regardé en me disant, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai regardé les bâtiments et puis j'ai regardé les gens. Mais quand même beaucoup de gens qui se mettaient à prendre des selfies d'eux tout de suite en arrivant, des perches à selfies partout, l'interdiction des perches dans le musée, enfin etc. D'un coup, on a l'impression que ça devient un énorme fléau. Et j'ai regardé d'où ils se prenaient et je me suis dit, tiens, je vais travailler sur la pyramide de cet axe-là. Et déjà, c'est un énorme point de départ. J'ai essayé beaucoup de choses, mais je suis revenu à cette première idée qui était de la faire disparaître parce que je me pose beaucoup de questions sur le selfie, sur ce que ça veut dire, sur l'autoportrait. portrait, puisque dans mon travail, je fais pas de selfie, mais j'utilise beaucoup le portrait et donc des fois l'autoportrait quand je demande aux gens de m'envoyer des photos. Et donc cette question de l'image, de la réappropriation de l'image, de ce que font les gens de leur image, m'intéresse beaucoup.
La faire disparaître, dites-vous, JR, on lit partout d'ailleurs que c'est ça, que vous avez effacé la pyramide, et puis vous le dites vous-même, elle disparaît. Mais paradoxalement, sous la photo et par la photo, elle réapparaît, la pyramide, parce qu'en fait, on la regarde de nouveau. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que tous les touristes du monde entier se photographient en disant « je suis là ». Devant cette chose-là, qui s'appelle la pyramide, alors que là, ils retournent à nouveau quand même leur appareil pour regarder le monument. Donc, très paradoxalement, c'est un travail qui la remet en valeur.
C'est vrai, et qui, je pense aussi, pour moi, remet le lien social en valeur. Alors, je vous explique pourquoi, parce que finalement, j'ai déjà fait des collages sans visage, sans personne dessus. J'avais déjà collé des bâtiments sur des bâtiments. J'aime bien le travail avec l'architecture toujours, mais c'est vrai que c'est ma plus grande pièce de ce type-là. Elle est au plus près de la pyramide et juste vous lui tournez le dos et là vous regardez le balai de gens qui cherchent à comprendre. Et ceux qui cherchent pas à comprendre aussi, ceux qui s'en foutent et qui continuent de la photographier. Et ceux qui se disent, attends, il y a un truc qui ne matche pas, il y a un truc qui ne connecte pas, les gens qui se parlent, non, allez voir, c'est par là-bas. Toute cette interaction, jusqu'au point d'anamorphose, où là, il y a une queue qui s'est créée, où les gens doivent attendre, où il y a une bonne ambiance. J'y étais d'ailleurs hier. Et j'aurais dit, attendez, messieurs, dames, j'ai même pas encore pu prendre la photo de l'œuvre où je dois me mettre dans la queue. Alors, on a rigolé, on a fait une photo tous ensemble. C'est amusant que finalement, l'œuvre ne m'appartient tellement pas que plein d'autres personnes ont déjà pris la bonne photo avant moi, puisque les gens sont là jour et nuit. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de voir le partage, de voir ce que les gens ont créé avec, de voir ce que les gens pourront réimaginer. Il y a déjà des artistes qui m'ont écrit, qui pensent à des choses à faire en plus sur ça. Donc c'est, pour moi, c'est toute cette interaction qui me nourrit et c'est intéressant que ça parte de l'idée d'effacer un bâtiment alors qu'en fait ça crée plein de choses qui seront des fois visibles ou invisibles. Parce que ce lien social, finalement, moi c'est un des grands paradoxes dans mon travail, il est très présent partout, tout le temps, cette interaction entre les gens, mais il n'est pas visible quand vous regardez la photo.
J.R., vous savez quand même, puisqu'on reste un instant sur les lieux, vous savez quand même que ce lieu que vous avez choisi, même si c'est l'invitation du musée du Louvre, qui est la pyramide, ça n'est pas un lieu anodin. Vous savez sûrement qu'au moment de sa construction, en 1985, l'architecte Ming Pei avait suscité une importante polémique. On replonge dans l'histoire.
Si le baron Haussmann et M. Eiffel vivaient toujours, ils auraient probablement le sourire en voyant le torrent de protestations dont M. Ming Pei est l'objet. Le baron Haussmann a été traîné dans la boue parce qu'il a transformé Paris et a créé des grandes voies de circulation. M. Eiffel a été accusé de défigurer le visage de la capitale parce qu'il a eu l'idée saugrenue de construire une tour de fer de 300 mètres de haut sur les bords de la Seine. Qui se plaint encore du boulevard Haussmann et qui proteste encore contre la tour Eiffel? M. Ming Pei est l'architecte chargé de construire une pyramide dans les jardins du Louvre, une pyramide de verre. C'est un scandale, a dit ce matin à Philippe Calloni M. Sébastien Lost, qui était son invité. M. Sébastien Lost a écrit un livre intitulé « Paris mystifié ». Sébastien Lost reproche essentiellement à cette pyramide d'être inutile, laide, mal placée et naturellement de coûter très cher. Il réclame une maquette grandeur nature pour que les Parisiens puissent juger. Mais les défenseurs du projet, M. Ming Pei en tête bien sûr, ne manquent pas non plus d'arguments.
Vous y aviez pensé hier?
Il y a quelque chose d'intéressant avec les polémiques, c'est qu'en fait, elles ne concernent pas forcément tout le monde quand vous ne les avez pas vécues. Moi, je suis la génération de la pyramide, j'ai grandi avec la pyramide, je suis né en 83, je l'ai toujours connue. Donc je ne me suis jamais posé la question de sans la pyramide. Donc ma réflexion m'est venue d'ailleurs à une autre époque, à un autre moment, sur la polémique du selfie. Maintenant, je ne vais pas dire que je ne me suis pas intéressé à la pyramide forcément. À comprendre
parce que vous remettez le Louvre dans son état d'origine. Hein. Vous effacez le travail de paye en fait. Donc,
mais ce qui est
peut-être que vous faites des heureux.
Quand j'ai lu les interviews de paye, j'ai vu qu'il avait dit... qu'il cherchait, lui, à s'effacer le plus possible, à ce que ses côtes soient parfaites de manière à ce qu'elles se fondent dans le décor. D'ailleurs, ils avaient même créé un vert spécial où on voit à travers, sans qu'il y ait cette couleur verdâtre, pour que ça soit le plus transparent possible. Et donc, c'était aussi une révolution à l'époque. Et finalement, je ne vais que dans le sens de son souhait, qui était de la faire disparaître au mieux dans le bâtiment. Maintenant, je serais curieux d'avoir son retour là-dessus, parce que je l'ai pas eu, mais voilà, j'ai pas l'impression d'aller contre son souhait.
Est-ce que, par rapport au public, puisqu'il est très important pour vous, JR, vous avez envie de le provoquer, de malgré tout, de rappeler non pas cette polémique d'il y a 30 ans, mais d'intervenir à nouveau pour susciter non seulement le regard, non seulement la discussion, mais peut-être secouer un peu les gens, puisque pour revenir au selfie, c'est très très actuel. La réflexion que vous menez artistiquement s'ancre vraiment aujourd'hui.
Écoutez, moi, mes provocations et dans mon travail ont toujours été des provocations des regards. Et ça, c'est vraiment ce qui fait aussi bien le lien entre cette œuvre et d'avoir recouvert les favelas au Brésil. C'est d'un coup re-regarder un endroit, apprendre à le réobserver. Alors là, c'est par son point de vue, par son axe, par l'échange qui va en ressortir, par la manière dont on est propriétaire de son image. Chacun repart avec sa photo, il en fait ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, essentiel dans mon travail, qui était le cas au Brésil, au Cambodge, au Kenya et ici, sur la pyramide du Louvre.
Pourquoi du noir et blanc ?
Toujours. Bah, au début, c'était les seuls moyens du bord, et puis ensuite, c'était pour se démarquer de la publicité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu tout ça, et en même temps, une envie de vraiment marquer une image en dehors des codes publicitaires, et en même temps, c'est quelque part aussi devenu ma signature, sûrement.
Le travail que vous faites, hier en l'occurrence sur la pyramide du Louvre, évoque un autre travail qui n'est pas tout à fait le même, bien entendu, mais qui part à la fois de l'anamorphose, du trompe-l'œil, et de l'installation dans un lieu. En l'occurrence, souvent, il intervient cet artiste dans des lieux voués à l'abandon ou voués à disparaître, c'est Georges Rousse. Écoutez Georges Rousse dans cette archivina de Surpris par la nuit sur France Culture parler de son principe de l'anamorphose.
L'anamorphose que j'utilise pour dessiner dans l'espace n'est pas tout à fait visible depuis le point de vue où je fais ma photographie. Et quand nous sommes sur place à regarder l'installation, l'objet, la chose dessinée dans l'espace, sort de notre champ visuel et donc on n'arrive pas à reconstituer tout à fait cette forme-là. J'ai toujours aimé les lieux abandonnés et j'ai cherché comment dessiner dans l'espace. Et au début, les choses étaient simples, puisque j'arrivais avec des pots de peinture et je peignais des personnages sur les murs. C'était des scènes figuratives qui étaient la projection de mes rêves, de mes fantasmes. Donc, c'était très facile. Et puis, à partir d'un certain moment, je me suis demandé comment regarder l'espace de façon différente, comment travailler dans l'espace. Donc, j'ai fait comme en mathématiques. J'ai considéré l'espace comme un espace plan, alors qu'il était vraiment tridimensionnel. Et du coup, je me suis jamais posé la question de savoir s'il y avait un point de vue unique ou non, puisque la photographie, de toute façon, est prise d'un point de vue qui est unique. Et voilà, donc c'est l'anamorphose, en fait, qui est l'outil pour dessiner dans l'espace.
Chez vous aussi, à JR ?
Écoutez, Georges Rousse est une grande inspiration, bien sûr. Felice Varini aussi, qui sera présent ce week-end lors de la performance d'ouverture. Mais c'est important dans ce qu'il dit et dans son travail que je connais très bien. Pour lui, il n'y a qu'un point. Et d'ailleurs, souvent, il ne laissait pas les gens voir ses installations. Donc, on ne voyait que la photo.
On ne voit que la photo.
Et moi, j'ai voulu prendre ça vraiment à l'opposé. C'est-à-dire que pour moi, on a pu tout voir, aussi bien l'installation du début à la fin, qui était publique, qui a pris 3 semaines, enfin, sur les jours de fermeture du musée, et aussi le fait que, ben voilà, tous les points sont visibles et aucun point n'est conseillé, puisque à l'endroit où il y a le point d'anamorphose, qui est le point unique, ben en fait, il n'y a pas de marqueur au sol. Donc, pour moi, les marges d'erreur de photographie des gens sont aussi intéressantes que la photo parfaite de ce point de vue, puisque au final, la photo n'est qu'une excuse pour créer cette interaction.
Il y a autre chose qui est un point commun, qui est donc ce travail sur l'espace. Vous, en l'occurrence, JR, c'est l'espace public, c'est les lieux. Alors, vous avez commencé dans les rues, dans les villes, vous continuez d'ailleurs régulièrement dans les villes du monde entier, puis vous tendez à investir des monuments publics, le Panthéon, l'Assemblée nationale, maintenant la pyramide. C'est toujours l'espace public chez vous, mais c'est peut-être un changement de perspective, non ?
C'est forcément dans l'évolution de mon travail des bâtiments, des perspectives différentes en fonction des contextes. De travailler sur des bâtiments institutionnels, ça a été assez étrangement le cas depuis le début, puisqu'en 2005, sur mon premier projet Portrait d'une génération, j'avais pu coller quelques affiches, cette fois-ci pas illégalement, sur le musée, la Maison européenne de la photo à Paris. Mais ensuite, sur la tête moderne, 2-3 ans plus tard, beaucoup à l'étranger. Et puis, je me suis rendu compte, quand je l'ai fait au Brésil, juste un an après avoir collé sur les favelas, j'ai pu recoller les Arches de la Pâque, un peu la Tour Eiffel ou la Pyramide du Louvre de Rio de Janeiro. Et là, ça a suscité des réactions énormes, alors que pour moi, c'était que l'exposition d'un projet que j'avais fait auparavant. Mais les gens n'étaient pas prêts à voir ces visages de femmes sur ce monument qui venait des favelas. Tout le monde trouvait le projet incroyable quand les visages restaient sur leur maison, quand ils se sont retrouvés sur leur monument. Ça a créé une polémique énorme au Brésil. La directrice du musée s'est fait virer. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le point de friction n'était pas là, en collant dans l'endroit le plus dangereux sur la colline, mais était au cœur de la ville quand on a pu coller de manière complètement autorisée. Et là, on a pu voir le point de friction où les gens finalement n'acceptaient pas de voir des femmes qui venaient des favelas, qui pour eux ne représentent pas un lieu de vie légale et humain.
Finalement, le point commun, c'est effectivement le regard, nécessairement. J.R., quand vous dites qu'aujourd'hui, vous constatez l'importance du selfie, comme si d'ailleurs ce qui était au départ votre signature était devenu une pratique courante, ce qui doit sans doute peut-être perturber ou satisfaire, je ne sais pas, l'artiste que vous êtes. Mais malgré tout, ce regard qui se multiplie, la prolifération des images, le fait que les images sont absolument partout et que vous étiez au départ quelqu'un qui travaillait à rendre public toutes les images qui étaient privées dans les musées, etc., etc. Donc, je pense que en 15 ans, ça fait 15 ans à peu près que vous travaillez, et en 15 ans d'évolution des nouvelles technologies, il s'est passé tellement de choses que nécessairement votre pratique doit en être perturbée. Dans quel sens ?
Mais dans tous les sens, puisque je pense que vraiment, même si j'étais né 15 ans auparavant, je ne ferais rien de ce que je fais maintenant, puisque tout mon travail n'a été qu'en relation avec les moyens technologiques, les changements dans lesquels on s'est tous retrouvés. J'ai commencé la photographie, était encore sur pellicule, et j'avais 17-18 ans. Ensuite, c'est devenu plus un sport de riche, mais accessible à tous. Et là, j'ai pu commencer à prendre mes photos. J'avais pas les moyens de les imprimer, j'ai pu faire les photocopies. Les vols low cost ont commencé aussi. Il y a une dizaine d'années, j'ai pu commencer à voyager dans des endroits. Donc, d'un coup, le fait d'être complètement libre de ces voyages et autres, de pouvoir aller explorer l'image dans d'autres endroits, l'arrivée de l'Internet avec le fait de pouvoir partager les réseaux sociaux. Finalement, j'ai toujours travaillé en reflet avec le monde qui m'entoure. Et j'ai vu arriver la vague de selfies, alors que quand j'ai fait mon premier projet en déformant les portraits, c'était purement pour montrer la confiance que j'avais en tant que sujet extérieur à photographier une personne et montrer que ça se faisait avec sa confiance. Mais aujourd'hui, les gens, ça y est, se sont retournés l'appareil photo sur eux-mêmes et se photographient en 28 mm. Donc c'est très intéressant pour moi. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est là où j'aime prendre mes projets un peu comme en tout cas les observer comme un sociologue, c'est que en fonction d'un contexte, c'est possible dans le sens où un selfie ici n'est pas un selfie en Tunisie ou en Iran. Parce que la personne qui l'a fait, le fait des fois pour défendre ses droits, au risque de sa vie. Et donc, compte dans le projet Inside Out, qui est pour moi une expérience, qui est un projet très simple. Je demande aux gens de m'envoyer, eux, un portrait. Ça peut être le leur ou celui de quelqu'un d'autre. Je leur réimprime en grand format et je leur renvoie par la poste. Donc, je ne connais pas ces gens. Ces gens, je les envoie des quatre coins du monde et c'est gratuit. Eh bien, les gens les ont collés dans des endroits dans le monde où ils ont fini en prison. Et pendant ce temps, il y a d'autres villes dans le monde, comme Paris et d'autres, où les gens se les encadrent chez eux. Et donc, dans certains pays, on peut dire que c'est l'autoproclamation de soi, du selfie et autres. Mais au même moment, il y a un mec en Russie qui est en prison pour juste avoir tenu son affiche dans la rue. Et donc, ne pas regarder le monde de manière globale, et en tout cas ce projet n'est qu'une petite clé de lecture, c'est se regarder dans un microcosme, se dire oui, bah, se prendre en photo finalement, c'est que l'autoproclamation de soi, c'est que le selfie, et ce projet-là n'amène qu'à l'autoproclamation du selfie. Et en fait, oui, peut-être dans une ville, mais ça nous pose des questions sur les droits qu'on a ici, sur ce que, à quoi sert notre image, qu'est-ce qu'on en ferait pour défendre nos droits demain si les choses changeaient. Et en tout cas, ça en dit beaucoup sur le contexte dans lequel on vit.
Alors, j'ai décidé que si mes petits-enfants étaient artistes, je travaillerais avec eux. Donc, comme c'est mon petit-fils de la main gauche, parce que personne ne le sait, on a dit qu'on allait travailler ensemble. Et lui, parce qu'il s'est donné une forme tout à fait spectaculaire, même si c'est intime et magnifique, mais il s'est donné des formes graphiques qui s'adaptent à l'architecture, à des maisons. Et moi, j'essaie d'écouter les gens, parler avec eux, les filmer. Et on a pensé que nos deux méthodes de travail pouvaient parfaitement faire un documentaire à deux mains, à quatre mains, à trois têtes, à quatre yeux. Et en plus, on danse le fandango quand on a le temps. Il fait des claquettes et moi, je fais de la danse espagnole.
Ce serait bien de voir ça, ce spectacle de danse espagnole d'Agnès Varda, JR, et de vous faisant des claquettes. Mais pour l'instant, ça n'est pas tout à fait le projet que vous avez avec Agnès Varda. Parlez-nous de ce visage, projet visage-visage que vous êtes en train de travailler avec Agnès Varda.
Bah, ce qui est fascinant et qui rejoint ce qu'on était en train de se dire, c'est que malgré notre différence d'âge, quelques petites années, quelques petites générations, on a ce même regard sur le monde et c'est ce qu'on a eu envie de partager dans le film. Et en même temps, on n'a pas les mêmes manières de le capturer, de le partager. Mais on a eu envie justement de croiser nos talents là-dessus et donc de co-réaliser un film et de co-penser tout le projet, de co-réaliser même les collages, enfin l'ensemble. Et c'est fascinant de travailler justement avec quelqu'un qui a travailler sur l'image, sur la question de l'image, sur la manière de se représenter dans le film, dans le cinéma, etc. Enfin, qui a été pionnière dans son domaine et qui aujourd'hui me rappelle à moi, petit jeune qui débarque un peu foufou et qui essaye de tout tenter, certains codes et valeurs qui sont essentiels, peu importe les nouvelles technologies, les nouvelles modes de communication, les nouveaux façons de partager avec des montages rapides, elles restent toujours dans l'essentiel. Et ça, je pense, dans le cinéma, mais aussi dans la manière dont elle a d'approcher les gens, de les interviewer, etc., c'est quelque chose qui est indémodable en fait, qui ne bougera jamais et qui me ramène à l'essence. Et c'est ça que j'aime à travailler avec Agnès, c'est que je réapprends constamment et elle aussi, elle se nourrit du monde, elle observe tous ces changements, mais elle se rappelle toujours, elle se force à se rappeler de ce qui fait son pilier, son point central. Et c'est ça qui sur lequel on travaille dans le film, en tout cas en allant à la rencontre des gens et donc en se retrouvant à la rencontre de nous-mêmes aussi.
Oui, ce monde, en l'occurrence, c'est la France. Vous sillonnez
la
France.
Oui, la France, les villages.
Un peu comme Raymond Depardon, avec une petite camionnette, non?
Très différemment, puisque tout se passait dans sa camionnette. Mais
de temps en temps, il sortait pour prendre des photos hein, dans les villages.
Oui, non, mais je parle de son dernier film, là, que j'ai été voir.
Donc, les habitants. Mais dans son projet sur la France,
exactement,
c'était
bien
ça.
Bien sûr, bien sûr. Agnès a voulu me sortir de mes grandes villes et m'emmener que dans des petites villes, des villages avec lesquels elle avait une histoire, ou alors des fois des endroits qu'on voyait sur la route comme ça. Et on a pris donc mon camion photomaton et on est allé comme ça à la rencontre des gens. Et il y a plein d'autres surprises dans le film aussi parce que petit à petit, Agnès perd la vue doucement. Et finalement, le but du film, c'est que je l'aide aussi à capturer le plus d'images avant que tout foute le camp. Et c'est comme ça qu'elle le dit avec ses mots. Et moi, c'est en tout cas la mission que j'ai encore, puisqu'on est en train de finir de tourner là, et qui est fascinante, puisque c'est une vraie co-réalisation. Souvent, elle cadre, et je lui dis quand c'est net ou quand c'est flou, et je bouge le sujet ou quoi en fonction de ça. Et c'est de la vraie co-réalisation, parce qu'on a besoin de quatre yeux pour voir à peu près net.
J.R., vous parlez de ce projet en cours de réalisation, vous êtes en train de le tourner avec Agnès Varda, et vous allez le présenter demain. Lors d'un week-end marathon performance, ça c'est tout vous, que le Louvre vous a invité à faire. Hein, donc de samedi 15h à dimanche 15h, c'est tout JR avec des cycles de conférences, des invités, des ateliers. Agnès Varda qui viendra effectivement vous rejoindre. Donc vous investissez l'auditorium et le musée du Louvre pour ce programme marathon. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, beaucoup de choses, dont des surprises, comme des choses qu'on annonce sur les réseaux sociaux au dernier moment. Donc hier, c'était Arcade Fire qui a joué dans Jardin des Tuileries au dernier moment, comme ça, last minute. Et ce week-end, il y aura plein de choses. Il faut rester connecté. Mais en tout cas, le programme est annoncé. Les conférences sont ouvertes et gratuites. Ça commencera avec une masterclass avec Sam Sturdze,
président des Rencontres d'Arles.
Voilà, avec qui on va ouvrir ensemble ces 24 heures chrono. Il y aura aussi des invités comme Daniel Buren, Felice Varini, Peter Sotodjic, Fabrice Bousteau. Mais aussi un magicien incroyable, Yann Frisch.
Un magicien, il va faire quoi le magicien ?
C'est dans la partie de la nuit, quand on rentre dans la nuit, quand le musée est fermé, que d'un coup on a encore les clés du musée. Il y aura aussi une présence surprise de Mathieu Chédid. Puis ensuite, il y a un concert de 6 heures sous la pyramide du Louvre où tout le monde pourra dormir allongé sur des tapis et des transats. Et Nils Fram et Olafur Arnalds vont jouer pendant 6 heures non-stop. Puis ensuite, au réveil, les gens qui auront pris les billets en fonction du petit déjeuner, puisque toute la nuit est sous billetterie, par contre, pourront aller au petit déjeuner de Jean Humbert, ce chef français incroyable qui va cuisiner dans une des parties des musées. Et ensuite, il y aura une performance où là, par contre, tout le monde est invité encore. Il y a des places et des places, parce que ça sera sur le parvis de la pyramide à 9h30 du matin. Je serai là tout frais. Essaiera de créer une image tous ensemble. Et ensuite, on est en train encore de programmer la dernière heure avec une surprise. Donc, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être super pour remplacer Cara Delevingne qui a dû annuler au dernier moment.
J.R., au début de votre travail, il y a une quinzaine d'années, on vous a découvert sous vos initiales, J.R. L'anonymat, à ce moment-là, c'est pareil, d'être courante. Vous avez là aussi lancé quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes devenue quand même une star. Vous êtes partout. Vous avez beaucoup de projets. On n'a pas parlé de cette exposition pour les enfants au Centre Pompidou qui se tient aussi jusqu'en septembre, je pense. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire aujourd'hui de garder contradictoire ou obsolète ou anachronique de garder l'anonymat au moment où finalement l'anonymat part? En même temps, c'est un faux anonymat puisque JR c'est devenu une marque.
Voilà, c'est ça. Enfin, surtout JR, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'enlève mon chapeau et mes lunettes,
que vous avez gardé, hein,
que j'ai gardé, oui.
Savoir,
finalement, on
ne
reconnaît jamais. Donc finalement, c'est sous un déguisement que je suis reconnu. Donc est-ce que ça fait de moi quelqu'un de connu ou pas connu? Et il y a aussi, quand je pars dans des pays, là, j'étais le dernier endroit où ça m'a servi de travailler sous mon anonymat, c'était en Turquie, où les collages étaient illégaux, où on a été poursuivis, c'était il y a moins d'un an. Effectivement, en France, ça ne me sert plus à grand chose, bien sûr, ça serait regarder mon travail qu'à une échelle, et j'en ai besoin pour tous les autres pays dans lesquels j'arrive où les gens ne connaissent ni JR, ni chapeau, ni lunettes, et que je repars constamment de zéro dans tous ces nouveaux contextes où j'arrive et où j'ai l'impression de travailler comme il y a 15 ans, puisque les gens ne connaissent pas, les gens n'ont jamais vu, ils sont intéressés par la démarche ou pas, en tout cas des discussions naissent, et c'est autour du travail que je discute. Quand vous regardez aussi bien la pyramide que n'importe quel projet, c'est jamais signé dessus. Donc, je sais pas combien de, enfin, c'est le Louvre a le plus de visiteurs au monde. Enfin, c'est un endroit, un site. Je veux dire, c'est pas moi qui ramènerai les gens, mais les gens viennent là et je suis sûr que vous parlez à plein de gens qui repartent et auront peut-être pris une photo, auront peut-être fait la photo avec l'anamorphose parfaite, etc., mais ne sauront même pas qui est l'artiste. Et peu importe, j'ai jamais signé dans mon travail. Et puis un jour, quelqu'un connecte. Ah oui, d'accord, c'était lui qui avait fait ça au Proche-Orient et qui avait fait ça là. Toutes les clés sont sur Internet, mais sur les réseaux sociaux. Mais les clés ne sont jamais sur les murs. C'est aux gens de faire le pas. C'est purement des œuvres qui sont là dans la rue, qui appartiennent à tous.
Merci JR.
Merci à vous.
JR à la pyramide, c'est jusqu'au 27 juin, le week-end marathon de 24 heures, c'est à l'auditorium et au musée de demain 15h à dimanche 15h. L'exposition pour les enfants, exposition atelier à la Galerie des Enfants, c'est au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 19 septembre. Un grand merci à vous.
Merci.